explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
C'est un navigateur devenu mythique. Son parcours et ses récits ont inspiré toute une génération de marins. L'une de ses aventures en mer a tout particulièrement marqué les esprits. En août 1968, Bernard Moitessier s'élance sur son bateau Joshua dans la première course à la voile, en solitaire et sans escale, autour du monde. Au fil des mois, seul face aux éléments, il apprivoise les courants, affronte les coups de vent, savoure les ciels étoilés. Plus il avance, plus il fait corps avec son bateau et avec l'océan, et plus il perd de vue les enjeux de la compétition. L'essentiel est ailleurs. Son aventure maritime se transforme en quête intérieure. Alors qu'il s'apprête à remporter la course, Moitessier renonce aux honneurs et à la victoire et décide de poursuivre sa route. Je continue sans escale vers le Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être pour sauver mon âme, écrit-il. Jusqu'où cette épopée le mènera-t-il ? Bernard Moitessier racontera son incroyable odyssée dans un livre qui fera date, La Longue Route. Le scénariste de bande dessinée Stéphane Melchior a adapté ce récit dans un superbe roman graphique dont les dessins sont signés Yoon Locard, paru aux éditions Gallimard. L'occasion pour nous de repartir sur les traces de ce navigateur anticonformiste, pionnier de l'écologie et résolument libre. Cet après-midi, Stéphane Melchior nous emmène à travers les océans du monde sur la route de Bernard Moitessier. Louise Cognard a préparé cette émission, David Leprince la réalise, avec à la technique aujourd'hui Benjamin Wagon. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Daniel Fievé.
On sait maintenant que Bernard Moitessier a été repéré au large de l'Afrique du Sud et qu'il a, c'est le cas de le dire, course perdue.
Madame Moitessier a également adressé un message à son mari par la radio sud-africaine. Très surprise, ne comprend pas pourquoi décide changement itinéraire.
Il était pratiquement certain de remporter cette course croisière autour du monde à la voile en solitaire.
La décision de Moitessier ne tient pas, à moins qu'il ait décidé de tenter le plus extraordinaire coup de dé dont on n'ait jamais entendu parler.
Alors on peut supposer que Bernard Moitessier a été pris d'une crise de cafard, ou encore qu'il ait voulu tenter de boucler un deuxième tour du monde pour réussir un exploit tout à fait exceptionnel.
Le fait d'avoir été absolument seul pendant des mois a-t-il pu, enfin regardons les choses en face, modifier quelque peu son jugement?
Bernard Moitessier a perdu par la même occasion 60 000 francs et un globe en or qui était le prix de sa victoire dans cette course croisière en solitaire à la voile.
Bonjour Stéphane Melchior.
Bonjour.
Nous venons d'entendre des extraits de journaux datant de mars 1969 avec des journalistes absolument perplexes devant le comportement inexplicable du navigateur Bernard Moitessier qui décide donc de ne pas terminer la course dans laquelle il s'était lancé pour continuer à naviguer sur les océans alors qu'il allait remporter cette course. Son choix a désarçonné tout le monde, y compris sa propre épouse, Françoise Moitessier, qui lui envoie des télégrammes en se disant « Mais que fais-tu ?» Cette décision fera entrer Bernard Moitessier dans la légende.
Ah oui, vraiment, c'est ce qui va marquer ce récit, La Longue Route. C'est ce qui fera peut-être la plus grande gloire de Bernard Moitessier, certainement. Vous avez bien choisi votre extrait, c'est drôle, parce qu'en fait, c'est deux temporalités qui se rencontrent. Bernard Moitessier, lui, ne sait pas qu'il est en train de remporter cette course.
Ouais.
C'est ça qui est amusant. Donc, son message désarçonne tout le monde. Les autres suivent, évidemment, la progression des concurrents, sont informés par les journaux et espèrent la victoire de Bernard. Et évidemment, c'est le malentendu complet.
Oui, c'est le malentendu. Après, peut-être que s'il avait su qu'il était en tête, c'est pas dit qu'il n'aurait pas pris de toute façon cette décision de continuer. On va le voir avec vous en retraçant ce parcours incroyable à travers les océans. Mais avant, remettez-nous en tête un peu le contexte, l'époque à laquelle se déroule cette histoire. Nous sommes à la fin des années 1960 et à cette époque, encore aucun navigateur au monde n'a jamais fait un tour du monde sans escale.
Tout à fait. Quelqu'un a failli réussir, c'est Sir Francis Chichester, un excellent aventurier et marin anglais. En 1967, l'année qui précède le départ de Bernard Moitessier, il manque de réussir un tour complet à la voile en solitaire, fait une escale à Sydney. On peut en débattre, est-ce que l'escale était voulue ou est-ce qu'elle résultait d'une avarie? Toujours est-il qu'elle était aussi une forme d'hommage à la fameuse escale des Clippers qui avait lieu en Australie. Donc, la grande interrogation, c'est qui réussira le premier un tour du monde complet et à la voile en solitaire.
Et alors, cette première tentative avec quand même une escale, mais c'est déjà un exploit qu'il réussit, c'est parrainé par un certain journal, le Sunday Times.
Le Sunday Times.
Qui a l'idée, l'année suivante, d'organiser cette grande course. Racontez quelle est la règle du jeu, quelle est l'idée du Sunday Times.
Le Sunday Times, en fait, a vu ses tirages s'envoler avec le premier exploit de Chichester. Il voudrait bien réussir un second coup. Bernard Moitessier lui semble le candidat idéal. L'idée, c'est de faire un tour du monde en passant les trois caps. Bonne Espérance, le Cap Lewin en Australie et le Cap Horn. Remonter ensuite vers l'Europe.
Donc dépasser les trois caps, vous l'avez dit très vite, mais Bonne Espérance, donc c'est la pointe de l'Afrique.
Absolument.
Ensuite on passe au large de l'Australie.
On traverse l'océan Indien, voilà.
Avec Lewin.
On passe sous l'Australie, on passe sous la Nouvelle-Zélande, on fait le tour du pôle sud et on franchit le goulet du Cap Horn, on remonte l'Atlantique vers son port de départ.
C'est le parcours du Vendée Globe aujourd'hui.
Qui est l'héritier tout à fait de cette première course autour du monde, du Golden Globe.
Donc, et c'est la seule règle à peu près que donne le Sunday Times, finalement. On peut partir quand on veut, du moment que c'est dans l'année 68.
Entre le 1er juin et le 31 octobre, et il faut partir, il faut franchir une latitude nord, c'est-à-dire un petit peu en dessous de l'Espagne, on considère que c'est la vraie ligne de départ. En fait, tous les candidats partiront en Angleterre.
On part d'un port anglais, pas besoin de se qualifier particulièrement pour participer à cette course, pas besoin de payer pour s'inscrire à cette course, c'est finalement assez ouvert. On espère pouvoir notamment embarquer dans cette aventure des grands marins, des grands compétiteurs de l'époque, comme Tabarly, par exemple. Sauf que Tabarly, ça ne l'intéresse pas.
Non, lui, c'est un compétiteur qui choisit des courses beaucoup plus courtes, et puis il a l'habitude de faire fabriquer des bateaux spécialement pour certains types de courses. Et là, franchement, il est pris au dépourvu, et c'est trop long pour lui, et il n'a pas le bateau qu'il faut.
Donc, il décline poliment la proposition. Celui qui avait fait, en 1967, Sir Francis Chichester, qui avait fait une escale à Sydney à 65 ans, il vient de faire ce tour du monde qu'il a quand même bien éprouvé. Il n'a pas envie de repartir pour un tour.
Pas du tout. Non, là, il est rincé. Il veut bien s'en occuper, un peu superviser, mais il ne fera pas davantage.
Alors, il faut qu'on cherche des amateurs, mais des amateurs un peu célèbres, qui fassent rêver. On pense à Bernard Moitessier.
Oui.
Qui est-il, Bernard Moitessier? Qu'a-t-il fait déjà à cette époque?
À cette époque, il est déjà un marin récompensé et aussi un auteur aussi célèbre. Il a fait Le Cap Horn à la voile, c'est le titre de son précédent ouvrage, où il reçoit avec sa femme Françoise la Blue Water Medal, qui récompense le plus long parcours effectué sans escale jusqu'ici.
Oui, parce qu'il a fait Tahiti, Alicante en Espagne. Voilà. En duo avec sa femme.
Il faut bien l'associer parce qu'ils sont récompensés tous les deux et Françoise, bien que marin débutant, se montrait absolument à la hauteur de la situation.
Ouais. Ça, c'était donc l'ouvrage Le Cap Horn à la voile.
Exactement.
Précédemment, il avait aussi
Vagabond des mers du Sud.
En 1960, qui
a
carton,
déjà rendu célèbre.
Carton absolu.
Ouais.
C'est un navigateur célèbre. Il est connu. Alors, dans quel état d'esprit est Bernard Moitessier quand on vient le trouver pour participer à cette course autour du monde? Eh bien, pas franchement enthousiaste, comme il l'expliquera plus tard dans cette interview.
J'avais décidé de faire le tour du monde sans escale. J'ai appris, très peu de temps après, qu'un Anglais voulait également faire le tour du monde sans escale. Et puis, le Sunday Times décide de patronner cette course en offrant un prix de 6 millions pour le tour du monde le plus rapide et un globe en or pour celui qui arriverait le premier. Alors là, ça ne connaît plus. On ne peut pas faire une régate, à mon avis, pour ça. Celui qui fera ça pour le fric ou pour la gloire, il se cassera la gueule. Un tour du monde sans escale en solitaire, c'est un truc individuel et énorme. C'est trop énorme. Jamais mouillé, ne jamais s'arrêter. Ça n'a jamais été fait, ni par les grands voiliers, ni par personne. The man who wins is the man who thinks he can. Celui qui gagne est celui qui pense qu'il en est capable. Et ça, je savais que j'en étais capable.
Alors, il y a beaucoup de choses dans cette bribe d'interview, parce que l'on sent que ça ne l'a pas forcément plu que quelqu'un s'invite dans son rêve. Lui, il avait ce défi presque personnel, ce corps à corps avec la mer qu'il avait décidé d'entreprendre, ce tour du monde. Et puis, un journal vient s'inviter et mettre de la compétition là-dedans, lui mettre des concurrents dans les pattes. En fait, ça ne l'intéresse pas au début, cette course.
En fait, il est prêt à partager ce rêve d'un tour du monde à la voile, mais ce qui le choque, c'est la notion d'argent et de compétition. Ça, il refuse. Il a une approche complètement humble de la mer, et pour lui, il ne peut pas être question de gloire personnelle. C'est un rapport intime entre le bateau, le marin et l'océan.
Ouais. Alors, humble, Bernard Moitessier, mais aussi, on l'entend, déterminé, avec une certaine confiance en lui, hein, parce qu'il disait « Je savais que c'était à ma portée et que je pouvais y arriver. »
Il sait qu'il a le bon bateau pour ça. Il a un bateau très solide, qu'il a déjà éprouvé dans des conditions difficiles. Il s'y prépare avec son ami Loïc Fougeron. Il est prêt à partir. Quand ? Il ne sait pas encore, mais il s'y prépare, c'est certain.
Au début, quand même, il hésite à le faire dans le cadre de cette course. Et qu'est-ce qui le décide, finalement, à dire « Bon, bah, j'y vais, et effectivement, si je remporte cette course, je toucherai la somme et le globe en or qui est proposé. »
Ben, qui décide ? Les hommes, les femmes ? Je crois que c'est Françoise Moitessier qui est l'influence, qui est assez réaliste et lui dit « Écoute, un bateau, ça s'entretient. Cette course, tu vas la faire. Pourquoi est-ce que tu passerais à côté de cette chance ? Après tout, ça peut financer tes voyages, entretien du bateau. Vas-y, aligne-toi, tu vas bien voir. » Et en fait, il se rallie à son opinion.
Quels sont les autres participants à cette course ? Ils sont combien ? Alors, ils partent pas, on a compris, ils ne partent pas tous en même temps. Ils ont un laps de temps pour partir d'Angleterre. Combien sont-ils ?
Au regard des fréquentations des courses actuelles, on peut dire qu'ils sont très peu nombreux. Ils sont neuf. Et c'est surtout des aventuriers, hein, pour l'essentiel. Qui a comme marin confirmé ? Il y a Bernard Moitessier, peut-être l'Italien Alex Caruso. Mais sinon, les autres sont des aventuriers. Ils ont, pour certains, une véritable expérience de la navigation, c'est des réservistes de la Navy ou d'anciens de la marine marchande, des aventuriers assez solides. Mais enfin, celui qui a la véritable expérience, c'est Bernard Moitessier. Ouais.
Et ils ont tous, alors, on peut dire que c'est très hétéroclite, les voiliers qui vont s'engager dans cette aventure. On a toutes les formes de bateaux.
Hein, c'est une époque assez expérimentale en termes d'architecture navale. Il y a des voiliers gréés comme des joncs, celui de son ami Bill King. Les premiers trimarans s'élancent aussi, trimarans en bois. Enfin, on essaye des formules.
Il n'y a pas de règle, là encore, n'importe quelle embarcation peut prendre la mer pour participer à la course. Là encore, il faut se remettre dans le contexte. Hein. Pas de GPS à bord, pas de carte météo instantanée. Et en plus, et là c'est le seul des neuf concurrents, Moitessier refuse d'avoir un émetteur radio. Il aura un petit poste de radio pour capter la radio de tout le monde à bord, mais il ne pourra pas envoyer de messages radio.
Non, alors il refuse pour des raisons de poids. Il sait qu'un bateau bien équilibré, c'est aussi un bateau léger, donc il se débarrasse de tout le poids inutile pour sa course. Et puis aussi, il le dit d'une façon assez comique, il dit une course en solitaire, c'est pas pour causer aux gens à tout bout de champ. Donc il décide de pas communiquer avec la radio. Il a sa méthode à lui, une méthode héritée de l'enfance qui est aussi amusante que sa réponse au Sunday Times, c'est qu'il va communiquer avec son lance-pierre. Il approche d'un cargo, il envoie un petit message sur le pont du bateau pour faire ralentir et se mettre bord à bord, et ensuite il envoie ses paquets qui contiennent ses enregistrements, ses pellicules photos.
Oui, alors on va voir dans la suite de cette émission que ça ne marchera pas toujours aussi bien que ce qu'il avait prévu, mais c'était le plan. Le petit lance-pierre, aussi construire des petites maquettes de bateaux avec ses pellicules, parce qu'il prend beaucoup de photos aussi, ou aussi de petits films, et il envoie tout ça un peu comme des bouteilles à la mer pour donner de ses nouvelles à qui pourra les récupérer. Est-ce qu'il a le cœur léger quand il prend le départ de Plymouth en Angleterre? Ou est-ce qu'il il a de l'appréhension ? Dans quel état d'esprit il est quand il part ?
Je pense qu'il est heureux de partir.
Ouais.
Il est heureux de partir, il est heureux de s'élancer. Pour lui, ça reste une affaire de copains, encore une fois. Il est prêt à partager cette course. Il veut la faire, mais il n'est pas véritablement préparé à la gagner. Et il pense souvent beaucoup à ses amis. Ils sont quatre à se préparer ensemble, une sorte de petite fratrie, comme ça, Loïc Fougeron, Bill King et Nigel Tetley, ils sont dans le même bassin.
Ça, ce sont d'autres candidats, d'autres concurrents qui participent à cette course et qui sont ses amis. Bernard Moitessier va faire un voyage encore plus long que ce qu'il imagine. Cette traversée va être l'expérience la plus intense et la plus incroyable de toute sa vie. C'est ce que nous allons voir avec vous, Stéphane Melchior. Cet après-midi, le temps d'un bivouac hisse les voiles et part à travers les océans du monde sur la longue route de Bernard Moitessier.
Je ne sais pas quel est le gars qui a dit les deux choses les plus terribles pour un homme. La première, c'est de n'avoir pas réalisé son rêve, et la deuxième, c'est d'avoir réalisé son rêve. Mais là, j'arriverai peut-être à dépasser mon rêve, vous voyez, à ce moment-là, il n'y aura plus de problème.
il voyage en solitaire. Et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre. Il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Et puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer.
Elle est belle, cette chanson, me dit notre invité Stéphane Melchior. C'était Alain Bachung qui chantait « Il voyage en solitaire dans le temps d'un bivouac » sur France Inter.
Entre chien et loup, je suis toujours sur le pont. Parce qu'il faut savoir ce que sera la nuit. Et c'est en lisant le ciel, le soir, qu'on a le plus de chance de savoir ce que donnera la nuit prochaine. Les doigts finissent par avoir des yeux. On y voit avec ses doigts. Je ne prends jamais une lampe électrique la nuit. C'est même plus de l'automatisme. C'est de participer intégralement à son bateau. C'est d'être devenu soi-même le bateau.
Bernard Moitessier fait corps avec son bateau, Joshua. Notre invité, Stéphane Melchior, retrace dans une bande dessinée sublime parue aux éditions Gallimard la longue route du navigateur Bernard Moitessier, engagé en 1968 dans la première course autour du monde en solitaire sans escale. Ce qui frappe dans le récit de Bernard Moitessier et dans votre adaptation en roman graphique, c'est cette relation fusionnelle qu'il semble nouer avec son bateau.
Pour lui, il n'y a pas d'autre façon de naviguer. Ça remonte à sa plus tendre enfance où il apprend la navigation avec les marins du golfe de Siam. Et là, on est très loin de la façon de l'enseignement occidental. Mmh. Il faut tout voir aux étoiles, il faut sentir le vent, sentir la vague.
Ouais. C'était l'Indochine à l'époque, le Vietnam actuel. C'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a appris la navigation.
Absolument, oui, sur des jonques. Il a fabriqué aussi ses pirogues avec ses frères et son père. Donc il a ce rapport complètement intuitif, complètement fusionnel avec les éléments. De toute façon, on ne lui a pas appris autrement.
Mmh. Et là, il navigue sur Joshua, son bateau, qu'il a en partie conçu, qu'il aime ce bateau. Et vous, vous-même, vous avez eu la chance de naviguer sur Joshua. Quel souvenir en gardez-vous, Stéphane Melchior ?
Très ému. Quand on aime autant ce récit, on n'a qu'une seule envie, c'est de naviguer sur ce bateau. C'est une chance qui est offerte à tout le monde, pas seulement à moi. Le bateau est conservé au Musée maritime de La Rochelle et propose des petites croisières. Et avec mon ami dessinateur Yun Lockhart, la première chose qu'on a faite pour travailler sur cet album, c'était naviguer sur Joshua.
Ouais. Cet album, c'est une lente maturation. Hein. Ça fait 10 ans que vous l'aviez en tête. Ce personnage, moi, Tessier, vous le connaissez depuis que vous êtes tout petit, votre père était navigateur. Il a fallu du temps pour que vous vous sentiez prêt pour raconter cette histoire.
C'est ça, mon père était un excellent marin amateur. Hein. C'est un ouvrage, La Longue Route, que je découvre dans la petite bibliothèque de bord de notre petit bateau familial. Une fois qu'on l'a lu, on ne l'oublie plus. Ce récit, il m'a fait rêver. Il me fait toujours rêver, encore aujourd'hui. Et j'attendais de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir vécu certaines expériences, d'avoir fait de longues traversées, d'avoir voyagé au Cambodge et au Vietnam. Je voulais essayer de tout comprendre, de la psychologie, de tout ce qui avait mené ce marin extraordinaire à travers les océans.
Ouais, à travers les océans et avec ce parti pris, on le disait très fort, de ne pas s'encombrer d'un radio-émetteur et de donner de ses nouvelles sur son trajet avec un lance-pierre. Il a aussi mis un gros chiffre 2 sur sa voile pour que si on le repère, qu'on le voit passer, on puisse dire tiens, on a vu ce bateau passer et informer son épouse et ses amis qu'il était en vie et que tout allait bien pour lui. Alors la première fois qu'il tente de donner de ses nouvelles, c'est quand il est dans l'Atlantique Sud. Il approche d'une petite île au large du Brésil, l'île Trinidad. Racontez comment ça se passe.
Alors, c'est le premier moment où il essaie de donner ses nouvelles. Voilà, il a quitté Plymouth, il a traversé la Manche dans le brouillard, il craint le poteau noir, les alizés l'envoient vers la côte brésilienne, et là, il se dit que c'est peut-être le moment quand même d'envoyer un petit message. Et il approche de cette île qu'il n'a jamais approchée auparavant, qui est l'île de Trinidad. Alors lui, il écrit Trinidad, bon, c'est comme ça. Mmh. Et là, il y a une sorte de malentendu incroyable, et il s'approche aussi près qu'il peut de la côte. Il ne doit pas faire escale, hein, pas, sinon, évidemment, les conditions de course serait rompu. Et il essaye d'attirer l'attention, il sonne de la corne de brume, il s'approche le plus possible de la plage. Finalement, les gens ne sortent pas. Et puis, enfin, se décide à sortir. Lui, il a abandonné l'idée de les contacter.
Sauf qu'il reste immobile. Lui, ce qu'il aimerait, c'est que ces gens montent à bord d'un petit bateau, viennent à sa rencontre pour qu'il puisse leur envoyer ses pellicules. Avec son... Et puis, il les voit immobiles, presque un peu inquiétants, semblant ne pas réagir, ne pas bouger. Donc finalement, il décide de laisser tomber.
Rendez-vous manqué avec l'humanité,
ouais, c'est ça. Il fait demi-tour, ouais. Et c'est au moment où il fait demi-tour qu'il voit sur le bord de la rive tout le monde s'activer. En fait, les gens l'attendaient, pensaient qu'il allait accoster. Et c'est une sorte...
C'est drôle, c'est une sorte de double malentendu. Lui pense qu'il accoste une île comme les autres. Il ne l'apprendra que plus tard. Il s'agit d'une base militaire. Et donc, en fait, les gens qui sont là pour travailler. Ouais. S'attendent pas à voir arriver des bateaux de plaisance. Ouais. Et donc, tout le monde se scrute, personne ne se comprend, et lui, il est dans l'attente de ce message, de cette rencontre humaine, et elle n'aura pas lieu, mais elle lui laissera un souvenir vraiment mélancolique et plein d'humanité, en fait.
Oui, et amer, hein. Vous le citez dans votre roman graphique, voilà ce qu'il dit, « Vous m'espériez, et moi je vous tourne le dos, quel malentendu, pardonnez-moi mes amis, mais comment faire, je me sens tout drôle ». Un peu envie de chialer. C'est-à-dire qu'on sent déjà qu'il se déconnecte des terriens, les quelques tentatives de se rapprocher, ça tourne court, ça le plonge dans une sorte de cafard.
Oui, ça traduit aussi beaucoup de son caractère, c'est-à-dire moi, Tessier va être célèbre à cause de ce grand trajet en solitaire, mais c'est pas un homme qui aime la solitude. Ouais. Il est tourné vers les autres, pour lui, l'amitié, la rencontre humaine, c'est très très important. Ouais. La fraternité.
Alors, l'autre rencontre humaine se passe pas non plus de façon terrible, alors, on a déjà un peu avancé. On est au large du cap de Bonne-Espérance, donc à la pointe sud de l'Afrique du Sud, et il voit un cargo. Alors il se dit, cette fois-ci, je vais leur envoyer avec mon lance-pierre quelques nouvelles pour informer ma famille, mes amis, de où j'en suis dans mon... Et alors, comment ça se passe, cette fois ?
Eh bien, ça se passe assez mal. Hein. Ouais. Oui, alors le voilà à la pointe de l'Afrique du Sud. Il cherche quelqu'un à contacter. Les cargos vont trop vite. Il fait même quasiment demi-tour dans la baie de Walker. Enfin, il tourne sur lui-même. Il est à la recherche de cette rencontre. Et puis, il est un peu désespéré, à nouveau, échec de la rencontre. Il s'apprête à reprendre la suite de ses routes. Et voilà qu'un petit cargo à la bonne taille, à la bonne vitesse se pointe. Il se font signe. Le cargo s'approche. Il envoie son petit message avec son lance-pierre. On est prêt à faire l'échange d'informations. Et la catastrophe, la mâture de Joshua se prend dans la coque du bateau, du cargo. Et là, le voyage a failli s'interrompre. Quoi. Mmh. Les mâts plient comme des cannes à pêche. Et le bout dehors est complètement défoncé. Mmh.
Alors le bout dehors, pour ceux qui ne sont pas de la partie, hein, qui ne connaissent pas bien le monde de la voile, c'est cette espèce d'avancée, de petite passerelle qui dépasse de l'avant du bateau.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on les marins diraient un espars. C'est ce qui prolonge le bateau vers l'avant et qui permet d'y attacher, pour faire simple, des voiles supplémentaires, notamment phoque.
Et là, ce bout dehors est complètement tordu vers le bas, alors que c'est une pièce maîtresse pour faire avancer.
Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il réduit complètement sa voilure, donc le bateau sera moins performant et déséquilibré.
Et là, Moitessier va faire preuve déjà de sang-froid et il se laisse une nuit pour réfléchir à comment faire face à cet imprévu et à ce dommage. Et il va faire preuve d'une ingéniosité remarquable pour rétablir la situation.
Franchement, j'essaie toujours de comprendre comment il a réussi cet exploit. Là, il s'est servi de ses gros winches puissants, il a créé des palans et il a réussi à redresser son bout dehors, à refixer un hauban qui s'était rompu. Les mâts ont tenu par miracle et il est prêt à repartir. Quelle maîtrise extraordinaire.
Oui, c'est vraiment...
Et quel bricoleur aussi.
Oui, c'est ça. C'est le bricoleur, le coup de génie, le sang-froid. C'est un vrai marin. Alors, il passe ce cap de bonne espérance. C'est le premier des trois. Ça se fête avec du champagne. On attend de l'avoir bien dépassé pour être sûr que le cap ne rattrapera pas. Il a le bras long, comme dit Moitessier. Les caps ont le bras long et il ne faut pas les sous-estimer. Et puis là, il traverse l'océan Indien. Et ça, l'océan Indien, c'est le plus sauvage,
difficile.
Le plus tumultueux.
C'est une mer qui est toujours compliquée. Je pense que tous les marins se raccorderaient sur cette expérience. Et donc, il faut le traverser. Il est long, c'est une eau différente, avec une salinité différente, une couleur différente. Elle est connue pour être capricieuse, puissante en courant et en coup de vent. Et ça l'inquiète. Et c'est aussi un moment où on se rapproche de la limite des glaces. Il reste encore dans la course à ce moment-là. Il a quand même envie de donner tout son potentiel au bateau. Et donc, pour lui, c'est trouver la bonne combinaison. Aller là où il y a du vent, mais plus on descend au sud, plus on se rapproche des icebergs.
C'est ça, c'est le compromis. Il faut à la fois descendre le plus dans le sud pour avoir les vents puissants et en même temps ne pas s'approcher de cette ligne imaginaire, ligne des glaces, à partir de laquelle on peut croiser la route des icebergs.
Oui, c'est vraiment le danger absolu. Pour lui, c'est la collision.
Et lui, rappelons-le, ses techniques de navigation, c'est très à l'ancienne. Hein. Il y va au sextant. D'ailleurs, vous-même, Stéphane Melchior, vous avez appris à naviguer au sextant.
Je suis en train d'apprendre, oui.
D'accord.
Comprendre.
c'est compliqué, c'est difficile de s'y mettre aujourd'hui.
Non, il y a de bonnes méthodes. Je pense que l'objet lui-même est un petit peu inquiétant par sa manipulation. Il faut de l'expérience. Voilà, il faut répéter l'exercice pour le maîtriser. Il est très fort à ce petit jeu-là, Bernard Moitessier, vraiment.
Et tout au long de... Vous dites qu'il reste dans la compétition, mais il a aussi toujours en tête ce que deviennent les concurrents. Parce qu'en fait, il n'a aucune nouvelle. Il ne sait pas où ils sont. Il essaye, il a une petite radio juste pour recevoir. Il essaye de capter la BBC, mais il n'a aucune information. En fait, ça ne marche pas. Et il s'inquiète un peu, en fait. Il a l'impression que ses concurrents étaient moins bien équipés, certains avaient des bateaux pas à la hauteur.
C'est ça.
Et il s'inquiète pour eux.
Il a peur pour son ami Loïc Fougeron, il se demande où il est, ils sont partis ensemble le même jour de Plymouth. Il pense à ses deux amis qui se sont préparés avec lui, Nigel Tetley, qui navigue sur un trimaran. Si ça se retourne, un trimaran, ça ne se redresse pas. Donc il est très très inquiet pour Nigel. Et il se demande comment Bill King va s'en sortir avec ses voiles en forme de jonque chinoise. Il trouve que c'est pas forcément le gréement adapté pour les mers les plus difficiles. Il pense toujours à ses amis, oui. Mmh. Il les a constamment à l'esprit. Et souvent, on a dit, oui, il semble un peu misanthrope, ce Moitessier, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui est tourné vers les autres et qui signe tous ses courriers, salut et fraternité. Signer fraternité, c'est pas de la misanthropie.
Ouais. À ce stade, Bernard Moitessier est toujours engagé dans la course. Il a l'intention de boucler son tour du monde. Vous allez, Stéphane Melchior, nous raconter ce qui va le conduire à changer ses plans et comment son aventure va prendre une autre tournure. Whatever you do, don't ever tell no bitch you love her. If you don't mean it, don't tell us. Just... Darling, I keep falling. Holding on a tiny thumb, but it's just my brain.
Ready to drift, LaFerrari handle better and it's pretty as shit. Feel safe in the grove, big boy when I drive. Love them all for different reasons at the same damn time. See monogamy, that shit is not for me. One option for everybody, don't you lie to me. Too many dudes, I'm too curious to try to be hiding things. Feel ashamed of the side of me, cause honestly, tea is not perfect. So how can I get everything from one person? I'm at the altar, but I'm still searching. I'm only human, if it ain't work, things change. And nothing stay the same, I believe. Maybe letting go is a beautiful thing. Perfect for the time being, I ain't do nothing wrong. Life is short, but forever it's so goddamn long. I like a long time, I'm on my own time. I love this good old, I hit the gold mine. I'm thinking new crib, I'm thinking two kids. Until I get infatuated with a new bitch. But when that gray hair finally come, at least I felt something if I ain't find the one. Nobody could fulfill me like this music shit does. So I'll be lonely with these Grammys when it's all said and done. Come on.
C'était Tyler the Creator qui chantait Darling Eye sur France Inter.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Qu'est-ce qu'un gars qui est resté comme ça en mer peut encore trouver à faire, hein? En fait, je ne fais rien, je vis. C'est simplement je vis. C'est pas pour voir des choses, hein. Vous comprenez, c'est pour les sentir, c'est pas pareil. Ce qu'on voit et ce qu'on sent, c'est pas la même chose, c'est jamais la même chose.
Bernard Moitessier racontant sur son petit dictaphone à bord de son bateau ce qu'il vit en mer lors de sa longue route. Cette tentative de premier tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale. Et Stéphane Melchior, on commence à l'entendre un peu dans ce qu'il dit. Il y a une dimension de plus en plus spirituelle, presque mystique à ce voyage.
Oui, là, je pense que doucement, il commence à lâcher l'affaire avec la course. Il est trop bien sur son bateau, en fait. Il fait des rencontres formidables. Il est en communion avec les éléments, avec la mer, le vent. Il semble de toute façon qu'il ait passé un pacte réussi avec les éléments, avec une certaine forme de spiritualité. Il appelle ça frère aîné, comme une sorte de grande conscience bienveillante qui l'engloberait, qui prendrait soin de lui.
D'ailleurs, il fait du yoga sur son bateau, entièrement nu sur son bateau, pendant de longues heures.
Ma foi, il est tout seul, donc il peut le faire.
Il peut se permettre, mais il a aussi le temps de faire du yoga. Et il dit que sans ces séances de yoga, il n'aurait peut-être pas été jusqu'au bout. Il a vraiment besoin de ça. C'est aussi un voyage intérieur qu'il
Absolument.
Fait.
Il a besoin de cette dimension spirituelle. Le yoga est né évidemment en Asie. Il est très sensible à cette civilisation et à cette culture. Mmh. Bon, il est aussi travaillé par un petit ulcère. Je pense que ça lui fait du bien.
Il dit que il l'avait depuis 10 ans, mais là, il ressent plus. Ça lui fait du bien d'être comme ça au milieu.
Il est heureux là. Vraiment,
il est heureux et il se sent aussi connecté au monde vivant. Parmi les oiseaux et les dauphins, il ne se sent pas seul. Il prête même de bonnes intentions à ses compagnons de route, comme il le racontera.
Au passage de la Nouvelle-Zélande, il y avait une centaine de dauphins qui jouaient avec Joshua au début et qui se sont mis à s'énerver. Ils passaient par bande de 20, de front, ils passaient à toute vitesse de l'arrière à l'avant du bateau, à toute vitesse, et quand ils atteignaient l'avant, ils viraient à angle droit et filaient sur la droite. Que je vais dire fera sourire et pas mal de gens peut-être. Mais je me suis aperçu à ce moment-là que le vent avait tourné, sans que je m'en aperçoive, tout doucement, et que je me dirigeais tout droit vers les cailloux qui étaient à 7 ou 8 milles. Autrement dit, si j'étais retourné dans ma cabine, une heure plus tard, j'étais échoué, je perdais mon bateau. J'ai réglé les voiles et pris le bon cap, Et à ce moment, les dauphins se sont calmés. Ils sont devenus normaux et l'un d'eux a fait 3 sauts périlleux absolument extraordinaires. Et on aurait dit que celui qui a fait le saut périlleux était le chef de la bande et que c'était comme un cri de joie qu'il lançait.
Tel que le raconte Bernard Moitessier, des dauphins lui auraient lancé des signaux pour éviter qu'il ne s'échoue. Vous pensez qu'il surinterprète ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Stéphane Melchior ?
Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la question.
C'est vrai ?
Oui, je pense qu'il dit vrai. Néanmoins, le doute est permis. Quand on lit Tamata, par exemple, un de ses derniers livres, il raconte que, quand il était enfant, on lui a raconté la légende d'un pêcheur du golfe de Siam qui avait été sauvé par un dauphin. Mais c'est un mythe qui est propre à tous les marins, presque, et à toutes les mers. Le mythe d'Arion de Mitylène, voilà ce poète et musicien qui est sauvé par les dauphins en Méditerranée au 7e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, ça fait partie de la grande mythologie marine. Maintenant, je pense que ça lui est vraiment arrivé parce que plus tard, il est revenu dans cette zone presque pour voir s'il n'avait pas rêvé et si tout ça avait bien eu lieu. Et puis, il y a d'autres témoignages de marins qui racontent comme cette communion mystérieuse entre le dauphin, les marins, les voiliers. De toute façon, les dauphins viennent toujours rôder. Hein. Lors de ma traversée de l'Atlantique, je l'ai constaté, je ne suis pas le seul. C'est vraiment une rencontre qui est toujours fascinante et excitante. On peut penser qu'il dit vrai, vraiment. C'est magnifique, cette histoire.
Oui, c'est magnifique. Et dans votre bande dessinée, elle est sublimement dessinée. Cette histoire se passe non loin de la Nouvelle-Zélande. Hein. Il a donc déjà franchi le cap Lewin en Australie. Ça. Il ne lui reste plus qu'un cap à franchir, le cap Horn. Et ça, c'est une étape qu'il appréhende.
Oui, juste pour revenir là, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il ne barre quasiment pas son bateau. Le bateau, il avance tout seul avec un régulateur d'allure. Bref, c'est un système de pilote automatique, pour faire simple. Et donc, il passe beaucoup de temps dans sa cabine à lire ou à regarder les éléments, même à dormir. Et là, en fait, il se fait surprendre devant l'île Stewart, sous la Nouvelle-Zélande. Et s'il n'y avait pas les dauphins, sans doute qu'il allait droit à l'échouage.
Oui, d'accord. Pour revenir sur le fait, pourquoi il était en train de faire ce cas.
Comment un marin de aussi bien capé que lui peut risquer la collision, c'est parce que voilà, c'est la façon de naviguer qui veut ça.
Et alors, pour revenir à cette idée de cap, le cap Horn, c'est aussi mythique pour tous les navigateurs.
Et pour tout le monde, c'est un passage difficile et très, très capricieux. Tout le monde espère le prendre dans de bonnes conditions. Lui, en plus, l'a déjà expérimenté durement.
Avec Françoise, quand il avait fait justement Tahiti-Alicante.
Exactement. Et là, il s'est fait durement secouer. Il a cette expérience. Il sait ce qu'il doit redouter là-bas.
Et alors, avant même d'y arriver au Cap Horn, il vit des instants tout à fait féerique. D'abord, une aurore boréale qui vraiment le subjugue tout à fait. Il dit peut-être le plus grand cadeau que m'a fait ce voyage.
Une aurore australe qu'il rencontre.
Oui, voilà, australe, assez, oui, vous avez raison. Quand on est dans cet hémisphère-là, c'est une aurore australe.
Oui, qui est assez inattendue et magique. De toute façon, c'est un spectacle qui est absolument fascinant et qui reçoit comme un cadeau. Il sait aussi que la météo est capricieuse. Il ne sait pas très bien comment il doit l'interpréter, mais enfin, il préfère le voir comme un signe très, très favorable pour la suite du voyage.
Oui, et puis, peu de temps après, la mer qui devient phosphorescente avec d'immenses taches rouges. On a l'impression que plus son voyage avance et plus il est sur une autre planète, il évolue dans des mondes totalement féeriques.
Oui, exactement, mais c'est vraiment une odyssée enchantée ce parcours, communion avec les éléments. Alors bon, là, ici, c'est la beauté du dessin et de la mise en couleur de mes amis collaborateurs sur cet album qui rend ces taches rouges. En réalité, ces grandes taches phosphorescentes, on les rencontre même dans l'Atlantique, je les ai vues également de nuit. C'est vraiment un spectacle magique. On comprend très bien après les anciens dessins du 14e ou du 15e siècle avec les premières cartes marines où on voyait des créatures fantastiques, une sorte de baleine qui projetait des espèces de phares sous la mer. Et en fait, c'est ce mouvement du plancton qui revient, la bioluminescence. Ouais. Voilà, ça peut faire parfois la taille d'un terrain de football, c'est absolument étonnant.
Et c'est ce genre, même si ce n'est pas la seule raison, mais c'est ce genre de dessin et de moment dans votre roman graphique qui montre tout l'intérêt d'avoir adapté ce très beau livre de Bernard Moitessier en roman graphique. Parce que certaines scènes sont sublimées par le dessin de Johan Locard.
Et la couleur de Joël Grange, il faut vraiment les associer tous les deux, ils se sont merveilleusement bien entendus, et si le livre est aussi beau aussi, c'est grâce à ce beau dessin et à cette belle couleur. Et l'idée vraiment, c'était de retranscrire toute la poésie de ce récit. Alors, moi, après, j'imagine, je crée des sortes de paraboles. en mettant en scène évidemment des choses qui ne sont pas forcément exactement dans le récit, mais il fallait restituer toute la poésie et les intentions de Bernard Moitessier.
Alors nous voilà arrivés donc au Cap Horn. Et là, finalement, alors qu'il avait terriblement appréhendé ce moment, mais il y a encore un peu une dimension un peu mystique, parce qu'il se sent protégé par une sorte de divinité au moment de passer son Cap Horn.
C'est ça. Il se demande... Là, il sait qu'il touche à la fin de son parcours. Les trois caps sont sur le point d'être franchis. Est-ce que le pacte avec les éléments, avec les esprits supérieurs, ce qui le protège depuis le début, il a une chance folle. Hein. C'est difficile de passer chaque cap à la bonne saison. Et il y arrive plus ou moins. Il rencontre des conditions extrêmement favorables. Hein. Mm-hmm. Il a évidemment des coup de tabac, il faut savoir prendre la mer, elle n'est pas toujours facile, mais dans l'ensemble, ça se passe miraculeusement bien. Mmh. Et il se dit, est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Et maintenant, qu'est-ce que je fais de la fin de ce voyage?
C'est-à-dire que, et même, il passe finalement, il dort pendant le passage du Cap Horn.
Mais il le passe de nuit. Je crois qu'il aurait été, il aurait aimé le revoir de jour, mais là, il va le passer de nuit, mais il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. Il va avoir une vision presque sublimée de ce Cap Horn, aussi très bien sublimé par mes amis dessinateurs et coloristes. Et ce Cap Horn va se présenter comme une espèce de montagne immobile, de grande vague immobile. Il aura cette vision fantastique éclairée par la lune pendant un bref instant. Et pour lui, déjà, c'est presque une page qui se tourne. Ouais. Et c'est le moment du doute qui s'installe
dans
sa tête.
Exactement, c'est le moment du doute. C'est-à-dire qu'après avoir vécu tout ça, c'est aussi pour ça qu'on prend le temps de raconter tous ces instants. Une question se pose. Alors, il n'y répond pas tout de suite. Hein. C'est la valse hésitation, il tergiverse sur son bateau. Dois-je continuer? Dois-je rentrer?
Oui.
Pour finir cette course, pour boucler mon tour du monde.
Il se dit, ça y est, j'ai bouclé les trois caps. Là, je vais peut-être recroiser mon trajet de départ. Il faut que je passe les Falklands. C'est la dernière épreuve, en essayant d'éviter les dernières glaces. Et d'un seul coup, une fois qu'il a accompli tout ça, il se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens vers la société des hommes? Il est travaillé par la culpabilité. Il aime sa femme, il veut retrouver sa famille. Il est en train de la terminer, cette course. Et en même temps, il ne sait plus très bien ce qu'il doit faire. Il décide de ne pas rentrer, puis finalement il décide de rentrer, puis il décide de ne pas rentrer.
Ouais, il finit par trancher et à renoncer à rentrer. Il enregistre, hein, toujours sur son petit dictaphone, ce message à destination de son éditeur et ami Jacques Artaud, une cassette qu'il enverra comme tous ses autres messages en les jetant avec son lance-pierre sur les ponts des cargos qu'il croise. Et voici le message qu'il enregistre.
Vous entendez? C'est le bruit de la mer. Ça fait des mois et des mois que je l'écoute, et ça me suffit. On a l'impression que c'est toujours le même bruit, mais je vous assure, elle me dit des tas de choses que je commence seulement à comprendre un peu maintenant. Et vous voyez, eh ben, c'est pour ça que je continue. Et il faut aller plus loin, vous voyez. Ça suffit pas, il faut aller plus loin. Vraiment, je suis heureux en mer, Jacques. Vous n'avez pas idée à quel point je suis bien. C'est formidable. Hein, ça fait 6 mois et des poussières, mais vous n'avez pas idée de ce que je suis bien tout seul, tranquille. Et c'est pas toujours rigolo, mais quand c'est beau, mais c'est fantastique, hein, tout ce que j'ai pu sentir. Alors, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Ce serait une connerie de rentrer en Europe. Je vois pas ce que j'irai foutre en Europe maintenant, vous voyez. Il y a trop de choses qui sont fausses. J'ai fait que cavaler dans ce pays. Je ne me vois pas remonter vers le nord, regagner un continent qui n'est pas le mien finalement. Je suis né en Asie, j'y ai vécu 26 ans, qu'est-ce que vous voulez, je suis marqué par une autre civilisation, vous voyez, la civilisation européenne, ce monde moderne, eh ben, il me fatigue, il me tue, il me crève. Hein.
Il semble grisé par l'océan, Bernard Moitessier, et en même temps écœuré par le monde des terriens, ou en tout cas le monde de l'Occident. Comment vous interprétez cette décision, Stéphane Melchior?
Je pense qu'il est rentré dans une sorte de méditation solitaire. Il a eu le temps de penser, de beaucoup lire. Sa pensée s'est enrichie et il porte un jugement un peu désespéré sur les débuts de la société de consommation.
Ouais.
Et il ne sait plus comment... Il a envie de la société humaine, il a envie de ses amis, il a envie de retrouver sa femme, mais il ne sait plus quoi faire avec la société moderne et occidentale.
Et comment comprendre cette référence qu'il fait à sa jeunesse? On rappelle, il a grandi en Indochine. Au début, son enfance est paradisiaque, puis elle est troublée ensuite.
Elle est brisée par la guerre.
Voilà.
Oui. En effet, elle est brisée par l'invasion japonaise et puis la décolonisation. Pour lui, c'est l'Éden. Il est chassé de l'Éden, vraiment. Il a vécu un moment d'enfance où il a vu qu'on pouvait être heureux avec très peu de choses. C'est devenu sa philosophie de vie. Il a construit tous ses bateaux lui-même. Il est dans cette économie. Et aujourd'hui, il ne sait plus quoi faire du monde moderne qui est tourné vers la guerre, vers le malheur, vers la surconsommation.
Et vous ajoutez dans votre roman graphique, Stéphane Melchior, des photos pour rappeler le contexte géopolitique de l'époque. Ça, c'est un peu un ajout. Hein. Lui n'y fait pas référence directement dans son livre La Longue Route. Mais c'est pour montrer l'ampleur des révolutions, des révoltes, des troubles géopolitiques qui secouent le monde, précisément l'année où il fait cette traversée.
Oui, c'est une année assez difficile, marquée évidemment par mai 68, par la guerre du Biafra, par la guerre du Vietnam, etc. etc. Donc, il n'en parle pas véritablement dans le livre. En fait, à la fin, quand il aura terminé le récit de la Longue Route en 1971, quand il aura fini de l'écrire, il rajoutera une sorte de chapitre, dernier chapitre, in extremis, que Youn et moi n'avons pas voulu traiter parce qu'elle nous sortait de notre premier sujet qui était ce tour du monde en solitaire, mais dans lequel il porte un jugement assez, assez dur sur la société des hommes. En fait, quand on entend ce très beau témoignage audio que vous nous avez livré tout à l'heure, on a l'impression qu'il essaie de nous convaincre, il essaie de nous rallier à son point de vue en nous disant, mais après quoi vous courez? Vous ne voyez pas que l'essentiel est là devant vous? Vous avez déjà tout, en fait.
Alors, quand il décide de ne pas rentrer, de ne pas boucler cette course, son idée est d'aller jusqu'aux Galapagos. Il repart donc pour un tour, sans avoir fait escale. Bernard Moitessier entame un deuxième tour du monde, comme grisé par le premier. Jusqu'où cela le mènera-t-il? C'est ce que nous allons voir avec vous, Stéphane Melchior, dans la dernière partie de ce temps d'un bivouac.
Convaincu que nous sommes sur Terre pour sauver quelqu'un, sois-en certaine. D'une, ça fait moins peur d'être aidé, seulement il faut l'audace d'être aimé. Toutes ces blessures sans y avoir succombé, si le ciel s'écroule, nous pourrons le surmonter. Allons-y tout de suite, je suis pas prêt, si t'as la foi, croise les doigts que ça passe crème. Au milieu du naufrage, c'est promis volontiers qu'on va tenir et l'amour se prolonger. Tout ce que tu dépasses devient une étoile qui brillera plus loin que toi. Plus loin que soi, plus loin que toi-même, plus loin que soi, plus loin que demain, que l'horizon, le voisin ou la raison jusqu'à l'amour. Que soit. Se lever chaque matin est le bénéfice, une centième chance d'éduquer nos fils. Et si les failles sont mal ignorées, reste du soir au matin pour s'améliorer. Il faut donner sans s'oublier, c'est pour nos gosses que je vais souligner. Ils naissent pour aller plus loin que nous, pas pour finir en croix sous les clous. Avant tout, les aimer ou nous payerons. Nous vivons tous ensemble, qu'on le veuille ou non. Je t'assure qu'après la peine viendra la joie. Faut juste croire plus loin que soi. Plus loin que soi. Plus loin que toi-même. Plus loin que soi. Plus loin que demain, que l'horizon, le voisin ou la raison jusqu'à l'amour. Plus loin que soi.
C'était Plus loin que soi, Oxmo Puccino dans le temps d'un bivouac, et merci à Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
C'est vers la fin du voyage, ça. Quand je commençais, après un dernier coup de vent du Pacifique, j'écris 2 jours plus tard, Josué accourait dans l'Alizée. Bon Dieu que c'est bon de se laisser vivre comme un animal, de se faire caresser par un vent tiède et doux. Que c'est bon de contempler la croix du sud chaque nuit un peu plus proche de l'horizon. Que c'est bon de dormir à s'en saouler, de se remplir le ventre à en roter de plaisir, de s'allonger au soleil sur le pont jusqu'à l'abrutissement. Et je n'avais plus peur de retrouver les hommes. J'étais en paix, je suis en paix.
Moitessier a trouvé le calme et la sérénité. Il est prêt à retrouver le monde des terriens. Il a quand même réussi à repasser le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin en Australie, et Stéphane Melchior, ça y est. Alors, il prévoyait d'aller jusqu'aux Galapagos, finalement, il va s'arrêter à Tahiti.
Les Galapagos, pour lui, c'est l'Éden. C'est lors d'un premier navigation avec Françoise Moitessier, c'est là où il avait rencontré la communion parfaite avec les éléments et la faune. Il aimerait y retourner, mais en fait, cette deuxième tour du monde ne se passe pas du tout comme prévu. Là, le pacte avec les éléments a été rompu. Peut-être qu'il a été orgueilleux en refusant de gagner cette course d'une certaine manière. Mmh. Peut-être que les dieux lui auraient accordé cette victoire. Lui, il la refuse parce qu'il est trop bien sur son bateau. Et voilà, il poursuit. Et après, là, il passe de coup de chien en tempête. Et en fait, il s'aperçoit qu'il n'y aura pas de deuxième tour du monde. Le bateau est rincé et lui aussi.
Et lui aussi.
Il faut vite, pour éviter la casse ou même la mort, il faut vite retrouver la société des hommes.
C'est pour ça qu'il va accoster à Tahiti. Et alors les autres concurrents, ils étaient 9 à partir.
Oui.
Lui n'a jamais eu de nouvelles de ses compagnons de route, hein, puisque ce sont aussi des amis qui ont participé à cette course. Que sont-ils devenus?
À un moment, quand il est en Australie, il pressent que Robin Knock-Johnson, le futur vainqueur de la course, et le seul arrivant d'ailleurs, l'a précédé de plusieurs jours. Les autres concurrents, ma foi, ils sont 9 au départ, et il n'y en a que 3 qui vont franchir les 3 caps. Bernard Moitessier, Robin Knock-Johnson et Nigel Tetley. Mm. Cette course, elle sera véritablement marquée par les drames.
D'ailleurs, même Nigel Tetley qui passe les 3 caps, lui, il est sur un trimaran, hein, si je ne me trompe
c'est
pas.
Ça.
Et il finit par sombrer.
C'est encore plus triste que ça, cette histoire. Lui a embarqué de la radio de bord, il sait où sont les autres concurrents, et c'est ce tragique personnage et marin de Donald Crowhurst qui fait des ronds dans l'eau au large du Brésil, ouais, et qui donne de fausses informations.
Alors ça, c'est un des concurrents, hein,
voilà.
Celui-ci, lui, il a entrepris de tricher et il n'a jamais pauvre. Quitté l'océan Atlantique.
C'est terrible ce qui lui arrive, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais toujours est-il que ce pauvre homme part pour de mauvaises raisons et se découvre complètement incompétent au milieu de l'Atlantique et fait des petits tours autour du Brésil, et en donnant des fausses informations sur son parcours, tout le monde le croit quasiment en tête. Et Nigel Tetley, qui est en train de faire un très beau parcours, va forcer l'allure sur son bateau qui est déjà un peu éprouvé et va le briser, se croyant talonné par ce candidat qui est un faux candidat.
Ouais. Qui lui-même mourra ou se suicidera, on ne sait pas trop. En tout cas, son bateau sera retrouvé.
Son bateau vide, on pense qu'il s'est suicidé. Enfin, on comprend qu'il a tenu deux journaux de bord, un vrai et un faux.
Ouais. Cette course a été une tragédie pour beaucoup. Pour moi, Tessier, ça a été une révélation.
Oui.
Alors, il arrive quand même exsangue, hein, à Tahiti, vous l'avez dit, éprouvé. Fatigué, mais manifestement heureux. Cette histoire, cette aventure va marquer le reste de sa vie. À quel point va-t-elle le transformer?
Eh bien, je ne sais pas vraiment si elle le transformera. En tout cas, il aura vécu quelque chose d'unique. Il sait qu'il a accompli un exploit sans pareil. Je pense qu'il renoue aussi avec ses valeurs, qui sont celles de l'amitié, de la fraternité et du vivre avec peu. Après, il va se lancer dans d'autres expériences. Bon, déjà, la longue route, le récit va être dur à écrire.
Ouais, deux ans pour écrire
c'est
son
récit.
C'est ça. Et
il a une véritable ambition littéraire. Il l'a toujours eu. Il n'est jamais content de son travail. Et nous, pourtant, on a beaucoup de bonheur à le lire.
Ouais.
Donc, on ne comprend pas très bien ce malentendu qu'il a avec l'écriture. Et toujours est-il qu'il se cherche un second exploit, un second récit après la longue route et qu'il ne le trouve pas. Donc, il se consacre plutôt à sa vie de famille avec son fils Stéphane et sa femme Iléana. À l'époque, il se séparait de Françoise Moitessier. La longue route a mis fin à leur aventure, d'une certaine manière. Et il se lancera dans différents trajets et expériences, mais jamais il ne retrouvera cette intensité de bonheur et de communion avec le bateau et les éléments.
Et des combats écologiques aussi. Il plante beaucoup d'arbres, que ce
c'est
soit en France ou en Polynésie.
Oui, parce qu'il a vu combien les gens étaient pauvres depuis son enfance en Indochine, et il essaye de montrer aux gens qu'on peut vivre de peu, qu'en étant un peu ingénieux et en ayant quelques notions d'agronomie, on doit pouvoir s'en sortir. Et il essaye de créer des îlots de subsistance dans le Pacifique pour aider les populations qui sont très malheureuses et assez pauvres.
En 15 secondes, parce qu'on termine, à quel point a-t-il marqué les générations suivantes de marins et de navigateurs?
Il fera s'élancer des centaines de marins. Il va proposer un style de vie assez dépouillé, en communion avec les éléments, vivre de peu en étant totalement libre, en se détachant voilà, des exigences de la société, des horaires. Il ouvre un espace de liberté, voilà, avec peu de moyens.
Merci Stéphane Melchior. Je rappelle le titre de votre roman graphique, hein, le même que celui de l'ouvrage de Moitessier que vous avez adapté, La longue route, avec les superbes dessins de Youn Locard aux éditions Gallimard. Un grand merci à vous, Stéphane Melchior, d'être passé par notre bivouac. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou sur l'appli Radio France. Très bon week-end à toutes et à tous et à lundi pour de nouvelles aventures.